Elle est insolente. Lors d'une conversation en famille, votre fille est ailleurs, elle n'écoute rien. Vous lui faites remarquer, elle vous répond « Je n'ai pas envie d'écouter vos conversations débiles. » Vous êtes vexé. Parce que tes conversations avec tes copains sont plus intelligentes, peut-être. Me sentir bien en famille me fait redevenir petite fille. Il ne faut pas que je me laisse aller. Elle vit dans la famille depuis sa naissance. Des millions de souvenirs sont engrammés dans son cerveau. Quand elle entend notre voix, les réseaux de neurones réveillent les automatismes du passé. Elle se sent redevenir petite, ce dont elle se défend. Ce n'est pas vraiment notre conversation qu'elle ne supporte pas, mais la régression à laquelle cela la convie. Bien sûr, le processus n'est pas conscient. L'ado se sent juste mal, bizarre, quand elle entend certaines fréquences dans les voix de ses parents. Alors, elle réagit agressivement. Des interventions empathiques, pleines de tendresse et de compréhension, déculpabiliseront l'ado de cette agressivité qu'elle ne maîtrise pas, lui permettront de mesurer que nous restons solides, qu'elle a le droit de grandir, tout en lui donnant des clés pour se comprendre elle-même. Sans compter que nous centrer ainsi sur elle nous aidera à ne pas prendre pour nous cette agressivité. Il sollicite ma présence, puis me rejette. L'adolescent est encore marqué par l'ambivalence. Il a besoin d'autonomie, mais aussi des bras, de sentir papa-maman à ses côtés. Mais dès qu'il est dans les bras, il commence à ressentir les réflexes de soumission et de dépendance comme quand il était petit. Comme il n'est pas encore certain d'être grand, il rejette les bras. Il ne rejette pas sa mère, il rejette la tentation de régression. En public, surtout. Non pas parce qu'il aurait honte de ses parents, mais parce que la simple présence d'autrui déconnecte le circuit d'attachement et déclenche une distanciation de la figure d'attachement. La réaction est d'abord biologique, puis elle est rationalisée par l'ado. En plein élan vers l'autonomie, sentir qu'il a besoin de ses parents, de sa maman particulièrement, est difficile à vivre. L'équilibre n'est pas simple, et les allers-retours peuvent désarçonner les parents. À 18 ans, quand il sera sûr de ses capacités d'autonomie, il pourra recevoir un câlin parental avec plaisir. J'ai envie et pas envie. Je déteste avoir envie d'un câlin. Ça me fait me sentir petit et je veux être grand. S'il répond « comme tu veux », quand nous lui proposons de rester avec lui chez le dentiste, par exemple, cela peut signifier qu'il ne s'y oppose pas, voire le désire, mais ne peut oser le formuler. Instaurer un signal pour demander un câlin peut être aidant, et parfois, nous pouvons ajouter une permission. Même les grands ados et même les adultes ont besoin de câlins. Conserver en tête l'image de la figure d'attachement comme un porte-avions nous aidera à lui permettre de s'envoler et de revenir remplir son réservoir à sa guise. Impossible de la lever le matin. Entre 12 et 14 ans, un changement s'opère dans le rythme de sécrétion de la mélatonine, l'hormone sécrétée par la glande pinéale, responsable du cycle veille-sommeil. L'horaire naturel d'endormissement d'une adolescente se situe entre 23h et 1h du matin, au seuil maximum de sécrétion de la mélatonine, pour un réveil entre 9 et 10 heures, quand le taux de cortisol, l'hormone du stress, de l'adaptation, qui induit le réveil, amorce sa remontée. Les scientifiques nomment cette tendance « retard de phase ». Chez certaines, le retard de phase est accentué. Elles n'arrivent pas à s'endormir avant 2-3 heures du matin, voire plus tard encore, et ne se réveillent pas avant 11 heures. Le phénomène a été observé dans toutes les cultures, même celles qui n'ont ni téléviseur ni smartphone, ainsi que chez nombre de mammifères. Bien sûr, il y a une grande variabilité individuelle et certaines sont plus du soir, d'autres plus du matin. Reste que la glande pinéale, et donc la sécrétion de mélatonine, est influencée par la lumière, particulièrement par la lumière bleue des objets électroniques, mais aussi par l'éclairage public qui pénètre dans la chambre. Savoir que lorsqu'elle dort plus de 6 heures par nuit, une ado augmente automatiquement sa moyenne en maths peut la motiver. 7% des collégiens s'endorment dans la journée, même s'ils ont bien dormi la nuit. 19,2% se réveillent la nuit. 41,5% ont des problèmes pour s'endormir. 49,6% se lèvent fatigués.
Je veux bien me réveiller, mais je n'y arrive pas.
Militons pour que collèges et lycées adaptent enfin leurs horaires aux besoins physiologiques des ados. Ce décalage de phase est connu depuis longtemps de l'éducation nationale. Développons des alternatives à la scolarisation classique pour être libre de choisir des horaires physiologiques propices aux études. En attendant, elle peut avoir besoin d'aide pour réguler l'utilisation de ces objets électroniques. Pas d'écran dans l'heure qui précède le coucher. Smartphone en mode avion à plus de 2 mètres de sa tête, Wi-Fi éteint pour la nuit. Au matin, au réveil, un verre de jus d'orange, ou mieux, un jus de fruits et légumes frais, pour booster son taux de sucre. D'un extrême « je m'en foutisme », il ne fiche rien à l'école. Les résultats scolaires de votre fils sont mauvais, vous tentez de le mettre en garde. Si tu continues comme ça, tu vas te retrouver dans une filière qui ne te branche pas. Quand tu vas te réveiller, ce sera trop tard.
Cause toujours, je m'en fiche. Mon attitude désinvolte, c'est cool. Tu ne comprends rien, papa. De toute façon, ça sert à quoi de bosser? L'école, c'est stupide. Un jour, vous verrez qui je suis.
Côté psychologique, serait-ce une question d'estime de soi? Les filles qui se pensent bonnes en maths réussissent mieux que celles qui se pensent mauvaises. Mais il n'y a pas de corrélation entre les garçons qui se pensent bons et leurs résultats académiques. S'ils se vivent mauvais, à quoi bon bosser? S'ils s'estiment bons, pareil. Dans toutes les matières, les filles font davantage les devoirs demandés. Même les garçons qui arrivent en tête de classe font statistiquement moins leurs devoirs que les filles de même niveau de réussite scolaire. À tous les âges, dans toutes les matières, les filles obtiennent de meilleures notes que les garçons, non pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais, d'après les chercheurs, parce qu'elles font davantage d'efforts. Le vrai souci est qu'un garçon doit affirmer sa virilité, être un héros. Faire ce que demande le professeur, ou pire, demander de l'aide, risquerait de faire chuter son statut social. Les admonestations parentales pèsent peu à côté de ces enjeux sociaux. Côté biologie et cerveau, le striatum ventral, impliqué dans la motivation, est sous-développé à l'adolescence. Les molécules d'estrogène se trouvent en abondance dans l'hippocampe. Les filles voient une amélioration de leur mémoire. Mais les estrogènes ont un tout autre impact sur les garçons et ils diminuent leur motivation. J'ai recours à mes super pouvoirs de parent. Pour redynamiser son cerveau, je l'emmène faire de l'escalade, taper le ballon, faire des arts martiaux. Sans omettre de supprimer au maximum les polluants et perturbateurs endocriniens, les phtalates dans les cosmétiques et plastiques, les alkyliphénols dans les détergents et bien sûr, le bisphénol A et les parabènes. J'évite d'acheter des produits au soja, lequel contient des isoflavones, des phytoestrogènes. Pour l'aider à lutter contre cet aspect destructeur et limitant de la culture adolescente, trouvons des motivations supérieures. Pourquoi pas une association ? Un engagement social. Il faut être sur son dos pour qu'il fasse ses devoirs. Votre fils est censé faire ses devoirs, mais vous le voyez constamment sur son téléphone. Vous ne pouvez vous empêcher de lui faire des remarques. Je suis inquiète à l'idée que tu ne réussisses pas ton année. Alors, tu t'y mets? Combien de fois je dois te répéter de ne pas attendre la dernière minute pour faire tes devoirs? Si tu n'étudies pas, tu vas échouer.
J'ai tout le temps sur mon dos, ça m'angoisse. Et plus je suis angoissée, plus je me réfugie dans mes jeux vidéo.
Malgré une croyance très répandue, les études montrent que les devoirs ne sont pas une garantie de réussite, ni plus tard dans la vie, ni même au collège. Il n'y a guère qu'au lycée que ça commence à aider. Ceux qui réussissent déjà bien n'en ont pas besoin et ça peut les démotiver. Ceux qui ne réussissent pas bien sont mis en échec. 9 parents sur 10 aident leurs enfants pour leurs devoirs. Plus les parents s'impliquent dans les devoirs, moins les enfants réussissent. Quelle que soit l'ethnie, le niveau social ou d'éducation des parents, la plupart des interventions parentales n'apportent que peu de différences, voire se montrent contre-productives. Outre une bonne école avec de bons profs, les études montrent que les discussions à bâtons rompus sur des sujets politiques et sociaux sont ce qui aide le plus l'ado à améliorer ses résultats scolaires, à développer ses capacités logiques et d'argumentation. Évitons les quatre erreurs les plus courantes. Faire à sa place, contrôler, s'immiscer entre l'ado et les enseignants, voler à son secours pour l'excuser s'il n'a pas fait ses devoirs. Et aidons-le à structurer son travail, à s'organiser. S'il demande de l'aide pour le contenu, nous ne la fournirons que ponctuellement. Pour mieux l'aider, montrons-lui qu'il est plus important pour nous que ses notes et écoutons ce qui se passe pour lui. Serait-ce une question de statut social ? De tout temps, les bons ont été moqués et les mauvais élèves encensés. Les bad boys ont plus de succès auprès des filles que les premiers de la classe. Si faire ses devoirs lui fait perdre du statut social, on comprendra qu'il ne travaille guère. Il peut faire les exercices les plus faciles, ceux qui seront probablement réussis par tous, mais dès que ce sera un petit peu difficile, il évitera de s'y mettre, de crainte de les réussir. Serait-ce une question d'estime de soi ? On lui a dit qu'il était intelligent. Dans la tête de beaucoup, être intelligent est quasi synonyme de ne pas avoir à faire d'efforts pour réussir. Il jette un œil à ses exercices, fait rapidement les plus simples et bloque face à la difficulté. Ce n'est pas qu'il soit cossard, mais il ne veut pas déchoir de son titre, car, selon lui, s'il doit faire des efforts, c'est peut-être qu'il n'est pas si intelligent qu'on le croyait.